Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primeau.
Bonjour et bienvenue à Histoire de génie. Je m'entretiens aujourd'hui avec Elliot Claveau, un diplômé de Polytechnique Montréal qui est présentement chercheur postdoctoral au Plasma Science and Fusion Center au MIT dans la région de Boston. Son parcours a fait de lui l'un des plus grands spécialistes québécois sur le sujet de la fusion nucléaire, une forme d'énergie remplie de promesses, mais techniquement difficile à mettre en place sur Terre. Il nous explique comment on pense arriver à recréer ici les mêmes conditions qui permettent aux étoiles de briller. Bonjour Elliot, merci de participer à cet épisode de Histoire de génie.
Ouais, bonjour, ça fait plaisir.
D'entrée de jeu, question que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, j'aimerais qu'on explique la différence entre la fission nucléaire et la fusion nucléaire. Comment est-ce que tu t'y prendrais pour expliquer la distinction?
Donc la fission nucléaire, quand on parle d'énergie nucléaire présentement, qu'on a à travers le monde, que ce soit des réacteurs en France ou Gentilly, par exemple, qu'on a parlé aux nouvelles il n'y a pas si longtemps que ça. Ça, c'est les technologies, ça existe depuis 50 ans, ça fonctionne, ça crée de l'électricité. Ça prend des atomes très lourds, comme de l'uranium, et ça les divise en deux, donc ça fait la fission. C'est des atomes fissibles. Et la division de ces atomes-là en deux crée un surplus énergétique. Donc, c'est ce surplus énergétique-là qu'on va exploiter pour générer de l'électricité, faire chauffer un liquide et faire tourner les turbines et générer de l'électricité. Donc ça, c'est la fission nucléaire, c'est ce qu'on a depuis plusieurs dizaines d'années. À l'opposé, tu as la fusion nucléaire qui est l'inverse. Donc on prend des atomes très légers comme de l'hydrogène et on les fusionne ensemble. Et cette fusion-là crée un atome plus lourd comme de l'hélium et ça va créer un surplus d'énergie. La différence, c'est que ce procédé-là, on n'est pas capable de le faire sur Terre encore. C'est là qu'il y a la recherche. Mais c'est le procédé qui est à l'origine de la source énergétique du Soleil. Donc, le Soleil fonctionne grâce à la fusion nucléaire, grâce à sa masse qui est tellement intense qu'il fait rentrer ces atomes légers-là dans son centre en fusion et qui crée de l'énergie qu'on ressent quand on va à l'extérieur et qui, au final, qui est l'énergie qui rend la vie possible sur la Terre.
Tu l'as dit, la fusion nucléaire, c'est ce qui permet aux étoiles comme le Soleil là, de dégager de l'énergie. C'est quoi les conditions qui permettent aux étoiles de produire de l'énergie nucléaire?
Oui, ben c'est une excellente question. Ça finit un peu à la fondamentale de comment faire la fusion nucléaire. Donc, il faut convaincre, si on veut, de ces deux atomes très légers, comme deux isotopes de l'hydrogène. Il faut qu'ils entrent en interaction, il faut qu'ils entrent en collision. Avec une très grande force, parce que les atomes sont, lorsqu'ils sont à haute température, sont chargés positivement. Et c'est comme essayer de coller deux pôles nord d'aimants ensemble. J'avais déjà essayé de faire ça. Si vous sentez de plus en plus qu'on se rapproche, de plus en plus qu'il y a une force intense qui empêche de coller ces deux aimants-là. C'est un peu la même chose avec les atomes. De plus en plus qu'ils se rapprochent, de plus en plus qu'il y a une force de répulsion intense qui les empêche de rentrer en collision. Donc, il faut passer au-dessus de cette force de répulsion-là pour être capable d'avoir la fusion nucléaire qui va créer de l'énergie en surplus. Et comment faire ça? Donc, en gros, ça prend comme trois ingrédients fondamentaux. Il y en a un qui c'est une température très élevée. Donc, on parle de 100 millions de degrés Celsius. Et cette température-là, un peu la logique de la chose, c'est la température, c'est l'équivalent à haute énergie. Au niveau moléculaire, de l'énergie, c'est de la vitesse, c'est du mouvement. Donc, ça prend une vitesse très élevée pour que ces molécules-là rentrent en collision. Mais non seulement ça, mais ça prend, pour avoir de l'énergie qui sort de façon appréciable, il faut pas une collision aux années, si on veut. Il faut plusieurs trilliards de collisions à chaque seconde. Ça prend une certaine densité de ces atomes-là et qui interagissent pendant un certain temps. Donc, c'est non seulement faut avoir cette énorme température-là, Et il faut la garder ensemble pendant assez longtemps et pendant une densité assez élevée. Donc, la solution la plus facile à ce problème-là, en guillemets, là, facile, c'est d'utiliser la force de gravité. Et c'est comme ça que le Soleil fonctionne. Le Soleil est tellement massif qu'il se compresse lui-même avec sa propre force de gravité. Et tu as les conditions de température, densité, et on appelle ça le temps de confinement à l'intérieur. Donc, les particules sont prises à l'intérieur du Soleil pendant des milliards d'années à des densités très, très, très élevées à cause de sa force de gravité.
OK, OK. Donc, recréer ces conditions-là sur Terre, là, c'est tout un chantier, là, on comprend.
Ouais.
Ce sera pas facile.
Il y a tout un chantier, il y a deux approches principales. Donc, j'ai parlé de... Il y a la température qui est plutôt un niveau fixe. La physique, la chose dicte que la température va être autour de 100 millions de degrés Celsius. On ne peut pas s'en sauver. Mais on peut jouer sur pendant combien de temps est-ce qu'on veut que cette réaction-là se passe. Et si on veut, c'est un peu plus facile. Au lieu de maintenir cette réaction-là pendant plusieurs milliards d'années, comme le Soleil le fait, on peut imaginer la maintenir pendant un claquement de doigts, ou plus précisément pendant quelques dizaines de nanosecondes. Donc, c'est une très petite fraction de temps, sauf qu'en créant des conditions de densité plus élevées que le centre du Soleil. Donc, ça, on appelle ça la technique inertielle, le confinement inertiel. Donc, on confine une énorme quantité avec une énorme pression, une densité très élevée, mais pendant une toute petite période de temps. Mais on est capable d'en extraire beaucoup d'énergie. Et ça, c'est l'approche qu'on a entendu parler avec des lasers. C'est une approche qu'ils font en Californie, aux États-Unis.
Mm-hmm.
Et dans l'autre extrême, ça, c'est l'approche inertielle. Dans l'autre extrême, tu as l'approche magnétique, qui est de confiner un plasma, donc de confiner tes atomes que tu veux faire réagir en fusion nucléaire, mais pendant une longue période de temps, mais sur une densité très faible, donc plus petit que une densité plus faible que l'air à la frontière de l'espace. Et ça aussi, c'est plus facile, si on veut, parce que la densité est plus faible, il y a moins de force en jeu. Mais on le confine pendant plusieurs jours ou minutes, ou si on veut, dans un espace de temps beaucoup plus long qu'un claquement de doigts.
On va revenir à la comparaison des deux techniques, des deux approches, c'est-à-dire un peu plus tard, tu as amené le sujet, dans le fond... En décembre 2022, la planète s'est excitée autour de la fusion nucléaire parce qu'il y a une équipe en Californie qui a prétendu avoir réussi à dégager plus d'énergie que ce qui avait été requis pour déclencher la réaction. Est-ce qu'on avait raison de s'exciter comme ça?
En fait, je dirais oui. Je dirais oui, mais avec un gros, gros, gros astérix. Donc, c'est une étape qui n'avait jamais été atteinte jusqu'à présent. Pour faire quelque chose d'utile avec la fusion, il faut qu'on réussisse à faire plus d'énergie que ça n'en prend. Et pour l'instant, jusqu'à présent, toutes les machines expérimentales n'ont pas réussi à faire ça. Donc, ça prenait beaucoup plus d'énergie faire rentrer ces atomes-là en réaction que ça n'en créait. Donc, une étape essentielle, c'est de réussir à avoir la parité. C'est de réussir à créer autant d'énergie que ça en a pris pour créer cette même réaction-là. Donc, ce qu'ils ont réussi à faire au laboratoire, c'est qu'ils sont rentrés en parité. Donc, ici, si on regarde l'énergie laser qui arrive sur cette toute petite particule de fusion, qui est d'ailleurs que la grosseur d'un grain de poivre, là. C'est tout petit. De tout, c'est
oui, je t'arrête deux secondes. Quand on voit les installations, c'est assez spectaculaire. Là. C'est un édifice gigantesque. Tu l'as déjà présenté dans une présentation que j'ai visionnée. Avec quoi? 192 lasers qui pointent.
Ouais.
Décris-nous le grain de poivre, justement.
Oui, oui. C'est 192 lasers les plus puissants du monde. Cet édifice-là, comme tu as mentionné, c'est une superficie de 3 terrains de football. C'est gigantesque. Là. Et ça rentre. C'est tout pointé sur cette chambre à vide qui contient une bille qui est une sphère la plus parfaite possible, qui est la grosseur d'un grain de poivre. Donc, c'est ça la cible de tous ces lasers-là. Et c'est ça que ça prend pour faire rentrer cette toute petite cible en fusion nucléaire. Et le truc là-dedans, et La nouvelle, c'est que eux, si tu prends juste la chambre à vide, si tu regardes juste leur chambre à vide, qui est peut-être la grosseur d'une pièce, mettons, de votre salon, là, quelque chose comme ça, et qu'on regarde juste l'énergie des lasers qui arrive sur cette petite bille-là, et ensuite qu'on compare ça à l'énergie qu'on a créée grâce à la fusion nucléaire qui ressort de cette bille-là. Donc, on a un bilan positif. On arrive à en créer plus que ce qu'on en a mis dessus. Ce qui est bien et ce qui est très nécessaire. Par contre, et c'est ça le gigantesque Astérix, c'est que cet énorme édifice-là, le 3 terrains de football, si on zoome à l'extérieur un peu et qu'on prend l'édifice au grand complet, générer cette lumière des lasers-là a demandé 100 fois plus d'énergie qui a été convertie en fusion nucléaire. Donc, combien d'énergie est-ce qu'on a créé en comparaison à combien d'électricité qu'on a pris? Donc là, on ne parle plus de plus grand que 1, on parle de 0,05%.
Ok,
on parle
une fraction,
de
donc. Ouais. Fait qu'on est encore loin d'un résultat positif en termes de dégagement d'énergie.
On est encore loin, il y a beaucoup d'étapes intermédiaires. Ouais.
Il y a déjà des grands chantiers de construction qui ont été, qui sont soit en cours ou qui ont été terminés. Je pense à, l'ITER en France, lui, c'est un projet qui a démarré en 2010 puis qui n'est pas encore terminé. On ne voit pas encore la fin. La Chine aussi a des réacteurs expérimentaux, là, des tokamaks. Il y en aurait au moins 6 en fonction. C'est quoi la place qu'occupent ces infrastructures-là dans le développement de la technologie de fusion nucléaire?
Oui, c'est une excellente question. Donc, toutes ces structures-là, ça, c'est des tokamaks, l'approche magnétique, l'approche plus basse densité, mais maintenant, cette basse densité-là pendant longtemps. Donc, c'est des expériences scientifiques qui ont comme but, leur but à toutes ces... tout ce que tu viens de mentionner, à part ITER, mais le but de tout ça, c'est pas de générer de l'électricité ou pas de générer un surplus d'énergie, c'est d'étudier la physique du plasma. Donc là, je vais mentionner le plasma qu'on n'a pas mentionné jusqu'à présent. Le plasma, c'est ce qui arrive lorsqu'on prend n'importe quel atome et qu'on le chauffe à 100 millions de degrés Celsius. La température est tellement élevée, il y a tellement d'énergie autour de cet atome-là, que l'électron se sépare de son noyau et qu'il devient indépendant de l'ion, donc du noyau. Mm-hmm. Et ça se comporte, le plasma, c'est toujours imaginer ça comme un gaz, mais un gaz qui répond aux forces électromagnétiques, donc qui conduit l'électricité qu'on peut contrôler qu'un champ magnétique.
On le présente souvent comme la quatrième phase de la matière, mais c'est plus une forme d'état gazeux, c'est ça?
Ouais, j'aime mieux, je trouve, c'est un point de vue personnel, mais je trouve que quand on dit que c'est la quatrième forme de la matière, ça le rend plus mystérieux que ce que c'est vraiment, qui est un gaz qui réagit aux forces électromagnétiques. Donc, il y a une intuition qu'on peut utiliser que ça se comporte un peu comme un gaz, mais qu'on pourrait contrôler avec des champs magnétiques. La raison, c'est ça, mon doctorat est en physique des plasmas, parce que c'est tout ça. Le problème de la fusion nucléaire sur la Terre, c'est qu'il faut qu'on réussisse à garder ce plasma-là qui est à 100 millions de degrés Celsius. Il faut qu'on réussisse à le garder confiné pendant longtemps pour qu'il réussisse à rentrer en fusion nucléaire, qu'on réussisse à le chauffer, à le confiner, et qu'on réussisse à... Et le mot-clé, c'est le mot stable. Il faut qu'il reste stable pendant longtemps. Pourquoi stable? Parce que on essaye de prendre ce plasma-là et en général, que ce soit magnétique et même en inertiel aussi, l'idée générale, c'est de prendre ce plasma-là à 100 millions de degrés Celsius et le léviter dans du vide, donc s'assurer qu'il ne touche rien. Parce que s'il touche quoi que ce soit, de un, ça va briser la chose qu'il touche, ça va fondre, et de deux, il va perdre toute sa chaleur. Donc, on veut qu'il reste isolé de toutes les parois, de tout. Donc, qu'il soit dans du vide. On crée une chambre à vide, on met le plasma là et on veut qu'il flotte. Et on le fait flotter avec des champs magnétiques.
Parce que rappelle-nous la température qu'on doit atteindre ici. Là. Il n'y a aucun matériau qui résiste à ça.
Non, 100 millions de degrés Celsius. Le matériau, pour donner une idée, un des matériaux avec le taux de liquéfaction la plus élevée, c'est le tungstène, et c'est autour de 3400 degrés Celsius. Là.
Okay.
Donc, on est très loin. Il n'y a aucun matériau qui s'approche de pouvoir peut-être résister à ce genre de température-là. Donc, il faut le confiner dans un contenant qui est fait en champs magnétiques, au final. Le contenant, c'est des champs magnétiques. Et c'est ça un peu l'avantage, si on veut, des plasmas, c'est que ça réagit aux champs magnétiques. Donc, on est capable de contrôler sa position avec des champs magnétiques. Et là, il y a différents, et là, il y a tout un zoo. Il n'y a pas juste les tokamaks qu'on en entend parler. Il y a toutes sortes de configurations de. On peut imaginer, comme je vous parlais, on prend le plasma, on le met dans un bol de champ magnétique et il y a toutes sortes de formes géométriques du champ magnétique, de bol en forme de beigne, de bol en forme de cylindre, de cylindre qui a des courbes un peu bizarres, en forme de torsade. Il y a toutes sortes de manières de créer un champ magnétique qui va contenir le plasma. Mais dans tous ces cas-là, un des grands défis, c'est que le plasma veut vraiment pas être sur la Terre. Le plasma préférerait beaucoup mieux être dans le centre du Soleil. Et toutes ces configurations-là sont plus ou moins instables. Y a des instabilités qu'on veut arrêter. Et l'instabilité, qu'est-ce qu'on dit par instabilité? C'est comme essayer de faire tenir un crayon sur sa pointe. Ou est-ce que si vous êtes très attention, vous prenez un crayon ou un stylo, vous le mettez sur sa pointe et vous le tenez dans vos doigts. Vous avez l'impression que pendant une fraction de seconde, il va être stable. Il a l'impression qu'il va tenir sur sa pointe, mais si vous le lâchez, ça va prendre la toute petite perturbation, le moindre coup de vent, la moindre vibration que le crayon, il va tomber. C'est ça qu'on parle par instabilité. C'est la même chose qui se passe avec les plasmas. On est capable de les créer, de les faire tenir dans ces espèces de bols magnétiques-là pendant une toute petite fraction de seconde. Mais si ce n'est pas la bonne configuration, si on en perd le contrôle un peu, s'il y a une perturbation, il va devenir instable et il va rentrer en collision avec les parois ou il va perdre sa température et on ne sera pas capable d'atteindre ces conditions-là. Et donc, pour revenir un peu à la question que tu posais, c'est pourquoi est-ce qu'on a tous ces tokamaks-là, ces expériences-là? En gros, c'est qu'on étudie ça et on veut essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce que c'est instable et comment arriver à en produire des meilleurs tokamaks et en comprendre mieux la physique qui rentre en jeu.
OK. Donc, c'est pour répondre à un des aspects. Là. Je comprends qu'il y a encore beaucoup de questions là, auxquelles on doit répondre. Puis, d'ailleurs, ce qui m'amène à la question, là, tu nous as parlé de deux approches différentes, l'une avec les lasers, l'autre qui se base sur l'électromagnétisme un peu plus. C'est quoi les obstacles là, qui freinent le développement de la technologie présentement, les principaux obstacles?
En point de vue des lasers, il y a en fait c'est intéressant parce qu'il y a plus en plus de compagnies qui vont s'essayer et qui vont essayer d'utiliser les avancées technologiques des lasers. Comme je vous ai parlé de le problème avec les résultats de là, un an, le lab national, les lasers, il y avait une efficacité de 1%. Sauf que ces lasers-là ont été construits il y a plus de 20 ans. Et la technologie des lasers a énormément évolué depuis 20 ans. Et ce serait possible de construire un système qui a une efficacité de 20% au lieu de 1%. Donc ça serait... juste la technologie de faire des lasers très puissants est un obstacle. Des lasers très puissants qui sont aussi fiables et qui ne vont pas non plus coûter plusieurs dizaines de milliards de dollars chaque. Donc ça, c'est un gros obstacle du côté inertiel. Le côté magnétique, en fait, c'est dans le nom. On utilise des aimants pour confiner des champs magnétiques. Et il y a beaucoup de recherches qui se fait sur les aimants en tant que tel, de générer des champs magnétiques le plus intense possible et de manière la plus aussi fiable et peu coûteuse possible. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se font sur ce niveau-là. Là, quoi. Et ça a été une des grosses avancées, en fait, qui a été faite au MIT, où est-ce que je travaille, qu'ils ont réussi à être les premiers à faire des aimants, on appelle ça à haute, des aimants supraconducteurs à haute température. Par haute température, on parle de la température de l'azote liquide. Là. Donc, c'est pas du tout la température pièce. Là,
parce que les supraconducteurs, normalement, ils travaillent à très, très basse température, là, près du zéro absolu.
Absolument. Normalement, les aimants supraconducteurs et les tokamaks de recherche qu'on a fait dans les 40 dernières années, ça a été fait avec des aimants, soit des aimants non supraconducteurs ou des aimants tout à fait normaux comme faits avec du cuivre. En fait, c'est des électro-aimants pour être plus précis. Ou soit des aimants supraconducteurs qui sont qu'il faut qu'ils soient refroidi à la température de l'hélium liquide, qui est 4 degrés Kelvin. Sauf qu'il y a beaucoup d'avantages que si on est capable de faire, et c'est ça qu'ils ont été capables de produire, un aimant à plus haute température, c'est non seulement on est capable de l'opérer à une température plus élevée, qui est beaucoup plus facile. L'hélium, on en manque, c'est difficile. Et de plus en plus, la température est froide, de plus en plus que ça prend des systèmes coûteux pour maintenir cette température-là.
Ouais. Parce qu'on
Donc,
parle
non
quoi
seulement.
de moins 269 degrés, quelque chose comme ça?
Ouais, c'est exactement ça, c'est
Ouais,
ça.
ok.
Ouais, moins 269 degrés. Donc, on est capable de maintenir une température plus élevée qui est plus facile sur le système cryogénique. Mais ces aimants-là aussi ont des propriétés qui sont plus résistantes aux dommages, qui sont plus résistants et qu'on est capable d'atteindre un champ magnétique plus élevé avec ces aimants-là. Et c'est ça, c'est la clé. Le champ magnétique plus élevé rend la chose beaucoup plus facile. Toutes les forces de confinement sont proportionnelles au champ magnétique en général. Et non seulement au champ magnétique, mais au champ magnétique, un exponentiel à la 4, ce qui veut dire que si on double un champ magnétique, on augmente la force par un facteur de 16. Donc, les avancées sur les aimants ont un énorme impact et c'est un sujet de recherche qui est vraiment à la fine pointe présentement.
Puis, je devine que tu es dans le camp de ceux qui pensent que la technologie qui va se développer en premier, c'est peut-être celle qui mise sur l'électromagnétisme comme ça.
Ouais, parce que donc les lasers ont un peu des avantages, c'est l'espèce de coût et les étapes qu'il faut entre générer de l'électricité nette et faire la chose. Si on veut le lab national aux États-Unis, c'est qui a eu le sujet, qui a reporté un gain pour la première fois. Ce lab-là, je l'ai dit, ça a une efficacité de 1%, mais non seulement ça, mais sont capables de faire une de ces réactions-là par jour.
Ah
Tandis que
oui, OK.
pour faire un réacteur, il faudrait que ça soit 10 réactions par seconde.
Ah
Donc, il
OK.
y a
On est loin encore.
un ratio de 800 000 environ entre les deux. Et donc, tout le système d'ingénierie pour comme qu'il faudrait augmenter l'efficacité de ces lasers-là, qu'il faudrait avoir un système qui envoie une bille à chaque 10 fois par seconde, une bille là-dedans qui rentre en focus. Il y a toutes sortes d'étapes qui manquent. Tandis que pour la côté magnétique, même si l'efficacité, si on veut juste qu'on regarde l'efficacité du plasma, on n'a pas atteint le même genre de niveau, mais l'efficacité globale de faire des champs magnétiques, c'est assez énergétiquement efficace. Donc, on a une efficacité beaucoup plus élevée que 1%. Et que les systèmes sont un peu moins complexes. Il y a moins d'étapes intermédiaires entre les expérimentations qui sont présentement et à quoi ça ressemblerait pour un réacteur qui produit de l'électricité.
Et là, je comprends qu'il y a encore énormément de questions là, à résoudre. Est-ce que c'est possible quand même d'envisager, ben, de se projeter dans le temps puis d'imaginer l'atteinte de prochains jalons là, dans 10, 20, 30 ans? À quel moment est-ce qu'on pourrait s'attendre à avoir une première, j'allais dire usine pilote, mais ça serait un réacteur pilote dans ce cas-ci, là, quelque chose qui
Ouais.
pourrait potentiellement dégager un gain positif d'énergie?
Ouais, c'est une très bonne question. Il y a comme on est à une étape intermédiaire avant le réacteur pilote parce que tout ce que les labs et les compagnies privées, ce qu'ils essaient de faire présentement, c'est de faire une preuve qui génère plus d'énergie globalement. Donc, on parle de l'électricité qu'ils prennent va être moins que l'énergie de fusion qui sort au complet de la machine, là. Donc, on parle d'un vrai gain, là. Qui en génère plus que ce qu'ils en prennent. Et ça c'est un peu comme c'est le moment, c'est comme un peu le premier vol des frères Wright, là. C'est
Ouais.
ce moment-là que tous les gens veulent atteindre. Sauf que ce moment-là, ça sera pas un réacteur non plus. Ce réacteur de démonstration-là, il va juste générer de l'énergie qu'on va mesurer, mais qui sera pas converti en une électricité, qui ne fera pas de, que toute la conversion. Donc ça va être une étape suivante, lorsqu'ils vont avoir démontré que ça crée de l'énergie nette, qui au final qui est la preuve ultime que oui, ça fonctionne, parce que ça crée plus d'énergie que ça en prend. Après ça, on va faire un réacteur pilote qui va faire de l'électricité pour de vrai, avec tous les systèmes de plus qu'il faut pour générer l'électricité. Et ça, je peux vous donner des dates un peu spéculatives sur ça, optimistes, si on veut.
Ouais, ben, je t'écoute.
Ouais, donc, les compagnies ambitieuses veulent faire cette démonstration-là d'un gain total pour la première fois d'ici 3 à 4 ans. On devrait voir ça. Puis lorsqu'on va voir ça, c'est un peu c'est un peu le pari, c'est que ces compagnies-là espèrent que avoir un engouement, qui sera la preuve ultime, et là, qu'ils vont avoir beaucoup plus de financement pour construire le réacteur pilote, mais qui, eux, lui, devraient voir le jour. Les plus ambitieuses disent début 2030, là, dans le fond, là, 2035. Ah, oui. Et ça, c'est un réacteur pilote, donc c'est un réacteur qui va pas nécessairement fonctionner très, très bien, qui va être juste encore là, une démonstration de on génère de l'électricité. Et qu'après ça, pour déployer ça à grande échelle, ça va être peut-être dans les 5 à 10 prochaines années après, donc dans les années 2040. Et ça, c'est le scénario optimiste, là.
Oui, on le devine, hein, parce que ça vient vite, ces années-là. Puis,
ouais.
Le passé nous a démontré que des gens enthousiastes, ben ça permet pas nécessairement de faire avancer des projets très rapidement. Ça suffit
pas
tout
le temps.
Disons.
C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant.
Mais quand même, je suis impressionné de savoir que ça. Certains pensent que l'horizon est si proche de nous que ça. Parce que la fusion nucléaire, ça a tout le temps été perçu comme quelque chose d'intéressant, mais quelque chose d'inatteignable. Puis là, on sent qu'on se rapproche.
Absolument, absolument. Et c'est tout le temps la question que le monde dit. C'est la vieille blague qui dit la fusion nucléaire, c'est 30 ans dans le futur et ça sera toujours 30 ans dans le futur. parce que ça fait depuis les années 50. La fin des années 50 qu'on étudie ça, la fusion nucléaire, et que ça fait depuis la fin des années 50 qu'on dit on est à presque là, on est presque là. Mais il y a une grosse différence, et c'est pour ça que je pense que c'est différent. Je ne vous dirais pas dit ça quand j'ai commencé mon doctorat, j'étais en 2014, et c'était pas très heureux comme environnement, là. Il n'y avait pas de financement, il y avait des coupures, les choses n'avançaient pas bien. Le projet ITER, qui était le projet le plus gros, il était comme un peu stallé, il n'y avait rien qui avançait. Et depuis ce temps-là, il y a une nouvelle chose qui est arrivée, c'est les compagnies, il y a des compagnies privées qui se sont créées. En 2014, là, il y en avait moins que 5. Il y en avait autour de 4 ou 5 là, qui s'essayaient. Présentement, il y en a 43 des compagnies privées. Et il faut que je regarde ce nombre-là à chaque quelques mois parce qu'il y en a tout le temps des nouvelles qui se créent. Donc, il y a un engouement, il y a du nouveau financement, il y a des nouvelles capacités, il y a des nouvelles technologies dont j'ai parlé, de la technologie des lasers qui a évolué énormément, la technologie des aimants supraconducteurs et aussi la technologie de simulation par ordinateur. On est capable de faire des choses qui étaient absolument impensables il y a 30 ans, des systèmes d'optimisation, de design, de simulation. On est mieux capable de comprendre la physique des plasmas. Au final, on s'est rendu compte que la physique des plasmas, c'est énormément complexe. On pensait que c'était plus simple que ça, mais il y a tellement d'interactions entre les champs magnétiques, les propriétés de gaz, de turbulence, qu'on commence à avoir des outils numériques de simulation qu'on est capable de mieux comprendre et de prédire et de faire des meilleurs designs optimisés. Donc, on a tous ces outils-là qui rentrent un peu en synergie. Et là, on a le capital privé qui essaie ces approches privées-là sont différentes des approches publiques, qui sont une approche beaucoup plus risquée. C'est un peu ça le pari que font toutes ces compagnies privées-là. Il y a 43 compagnies privées et il n'y en a pas une qui fait la même chose que l'autre. Ils font toute une approche extrêmement différente. J'aime ça comparer comme encore là au début des frères Wright, où tu avais quelqu'un qui s'accrochait des ailes dans le dos puis qui allait se tirer en bas d'une falaise. Il y avait du monde qui essayait avec un dirigeable, un monde qui essayait avec avec des moteurs, pas de moteurs. Il y a toutes sortes d'approches un peu farfelues.
Le milieu automobile aussi, je crois, s'est développé comme ça. Il y a plusieurs entreprises qui au départ là, faisaient leur modèle, puis Ford a sorti du lot, puis
c'est ça.
Les autres ont disparu.
C'est ça. Et on ne sait pas, c'est ça, sur les 43, il y en aura, dans 20 ans, il n'y en aura pas 43 des compagnies de fusion nucléaire, ou du moins de ces 43-là, il va peut-être y en avoir 4 ou 5 qui vont rester. Mais il y a tellement d'approches différentes, il y a tellement d'engouement et tellement beaucoup plus de financement aussi. Le financement était aussi un peu stagnant dans les dernières années. Et là, il y a plusieurs milliards qui sont injectés avec le capital privé. Donc, ça, tout ça comme me donne espoir que dans toutes ces approches-là, il y en a une qui va fonctionner. Il y en a plusieurs qui sont. La majorité sont physiquement plausibles. La majorité sont dirigées par des scientifiques et par des gens sérieux qui s'en vont explorer une méthode qui n'a pas été explorée autant dans le passé et qui est très possible qu'il va porter fruit, là.
Qu'est-ce qui, si je reviens sur ce qui t'a amené vers la fusion nucléaire, à la base, là, tu as étudié en génie aérospatial. D'abord, qu'est-ce qui t'avait amené vers ce programme-là?
Oui, bonne question. L'aérospatial, ça vient de mon intérêt un peu de la science-fiction. C'est vraiment ça. C'est mon intérêt de comme étant un jeune au secondaire, d'écouter tous les films ou les séries ou de lire des choses ou de même faire des vaisseaux spatiaux en Lego.
Parce que c'était pas l'aéronautique qui t'intéressait, c'était plus l'aspect spatial dans
C'était
l'aérospatial.
vraiment
OK.
l'aspect spatial. C'était vraiment la raison pourquoi est-ce que je suis allé là. J'étais un peu un geek de l'espace, un geek de la science-fiction. Et lorsque je suis arrivé un peu à la fin du bac, pour appliquer aux études supérieures, ça se fait comme un an à l'avance. Donc, sur la
Ouais.
dernière année du bac, il faut décider où appliquer. Puis j'avais vraiment comme en tête, je voulais continuer, je voulais aller étudier aux États-Unis. Ça m'intéressait juste de changer de décor, si on veut, d'aller voir ce qui se fait là. Et la première étape que j'ai faite, c'est que j'ai lu des articles sur la propulsion spatiale parce que je faisais comme un peu une espèce de bon, OK, qu'est-ce qui m'empêche? C'est quoi la distance entre mon espèce de rêve de science-fiction puis où est-ce qu'on en est la technologie présentement? Qu'est-ce qui est la plus grosse, qu'est-ce qui manque le plus à nos technologies pour rendre possible l'exploration spatiale, aller vers une étoile, une autre étoile, aller vers une autre planète. Et ce qui manque le plus, selon moi, c'est les technologies de propulsion. C'est qu'on n'est pas capable de s'y rendre assez vite, que ça prend beaucoup trop de carburant, que c'est des fois même physiquement impossible, que même une fusée faite à 100% de carburant serait trop lourde. Et donc, ça, c'est assez clair. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon, OK, qu'est-ce qui. En technologie de propulsion, qu'est-ce qui est faisable dans ma vie humaine que je pourrais voir, qui pourrait voir le jour, puis que je pourrais, que ce serait une technologie qui est possible, puis qui n'existe pas encore. Et cette technologie-là, c'est la propulsion par fusion nucléaire. Et c'est ça, c'est là
Ah ouais, OK. C'est
le
intéressant d'entendre le
lien.
cheminement qui t'a conduit là, parce qu'aujourd'hui, on voit que t'es ailleurs, là. Je sais pas si la propulsion t'intéresse encore ou si c'est vraiment plus l'aspect de fusion nucléaire là, qui t'intéresse, là.
Je
Ça
dirais
semble être le
la
cas.
propulsion, ça reste que c'est dans mon âme, je suis encore une espèce de geek de science-fiction.
Tu suis ça de loin un peu, j'imagine?
Ouais, je reste toujours, je regarde un peu tu sais, ce qui se fait dans le développement des lanceurs présentement, ce qui est excitant, là, tu sais, ce que SpaceX fait. Puis je garde tout le temps un œil sur ça parce que c'est vraiment excitant. Moi, je trouve tout le temps ça très, très excitant. Puis on est dans une époque aussi de tout le privé en spatial a énormément développé. En fait, c'est une analogie. En fait, le développement du spatial privé est un peu similaire au développement de la fusion privée. Cette espèce de même genre de
C'est la même voie qui est
secteur qui est.
empruntée.
Ouais, le même genre de secteur qui était auparavant juste gouvernemental, des énormes entreprises qui étaient un peu comme. Un peu qui était un peu stagné, si on veut, et là qu'il y a des compagnies privées qui sont venues puis qui ont mis de l'innovation dans la chose et du nouveau financement. Mais avant d'arriver à ça, avant de mettre un système de propulsion spatiale dans l'espace, il faut, dans tous les cas, régler la partie de la fusion nucléaire. Il y a certaines parties qui peuvent être un peu plus faciles, il y a certains qui ont un peu un argument de. C'est peut-être un peu plus facile de faire en fait un propulseur spatial par fusion nucléaire que de faire de l'électricité. Il y a moins d'étapes intermédiaires parce qu'on peut on prend le propulseur spatial prend juste le point de vue l'énergie cinétique de ton carburant qui est peu potentiellement plus facile. Mais dans tous les cas, reste que de faire avancer la recherche en fusion nucléaire, c'est ce qui est le plus efficace présentement pour peut-être éventuellement dans le futur à avoir système de propulsion spatiale, mais ça, c'est, il n'y a peut-être pas le même intérêt présentement, ou il n'y a peut-être pas même non plus la même utilité de faire
oui.
un propulsion spatiale versus remplacer les énergies fossiles. Il y en a un des deux qui est peut-être un peu plus utile que l'autre. Là.
Mais on comprend que les deux thématiques de recherche sont interreliées, puis qu'un va servir à l'autre.
Oui, exactement. Exactement.
Comment est-ce que ta formation en génie aérospatiale t'a servi après ça aux États-Unis dans ta carrière? Y a-tu des compétences que tu as acquises ou bien des moments où tu t'es rappelé d'événements que tu as vécu au bac, puis c'est ta formation qui t'a servi après coup?
Ouais, c'est une excellente question, puis c'est absolument, oui, ça me sert à tous les jours, en fait, c'est une des choses que j'ai été, tu sais, génie aérospatial, c'est génie mécanique avec une saveur mm-hmm. d'avion, mettons. C'est le curriculum de génie mécanique à 95%. Quand je suis arrivé au doctorat à l'Université de Washington à Seattle, je suis dans un département d'aérospatial là-bas. Mais eux autres, leur système est, tu sais, aux États-Unis, leur bac est 4 ans, mais ça inclut, ils commencent un bac comme c'est comme là, ça inclut la dernière année de cégep, si on veut. Fait que le bac standard, c'est comme le bac standard ici, c'est 3 ans, si on veut. Et sur ces 4 ans-là qu'eux y ont, il y en a juste 2 qui sont dans leur major, qu'ils appellent, dans leur concentration.
OK. Il y a comme un tronc commun.
Ouais. Et que le tronc commun qui est comme un peu comme notre cégep, tu sais, avec des cours de maths, des cours de sciences humaines, philosophie, de tout ce qu'on veut. En tout cas, donc moi, j'étais arrivé un an, en gros guillemets, en retard, dans le sens que j'ai fait un an de plus d'université à cause qu'au Québec, la formation d'ingénieur, c'est 4 ans au lieu d'être 3 ans. Si j'avais fait un bac normal, j'aurais fini en même temps que le reste des gens aux États-Unis. Sauf que la formation d'ingénieur aux États-Unis, c'est le même temps que toutes les autres bacs, comme si le bac d'ingénierie était de 3 ans au lieu d'être 4. Mais non seulement ça, c'est qu'en Polytechnique et dans d'autres programmes d'ingénierie, dès le jour 1, c'est des cours d'ingénierie. C'est des cours qui ont rapport avec l'ingénierie, de physique, de maths, de tout ça. Aux États-Unis, c'est pas ça. Ils ont juste 2 ans de cours de concentration. Et cette année supplémentaire-là et le focus de plus de cours d'ingénierie, je l'ai vu tout de suite. Je l'ai vraiment vu tout de suite à quel point, tu sais, j'ai donné des cours. Quand je suis arrivé là-bas, là, j'étais chargé de cours, puis je le voyais là, à quel point j'étais. Tu sais, puis c'est vraiment, je dis ça, c'est pas nécessairement moi, là, c'est vraiment la formation que j'ai eue comme ingénieur québécois était vastement supérieure à ce qu'ils ont eu en termes de qu'est-ce que j'ai été capable de faire le jour 1 en termes de design, en termes de contraintes, de planification, de projet, de. Tout ça, puis c'était vraiment quelque chose que j'ai été comme un peu choqué de voir à quel point que vraiment notre formation est peut-être beaucoup supérieure à ce que j'ai vu aux États-Unis. et ça m'a servi immédiatement, puis ça me sert tout le temps parce que je fais de la design avec des logiciels de design en 3 dimensions, de CAD, je fais des contraintes, des dessins mécaniques. Pour créer les expérimentations. Donc, ça me sert tout le temps.
Puis quand tu étais au bac ici, est-ce que tu as fait partie d'une des sociétés techniques?
Non. J'avais décidé de concentrer juste aux études puis de mettre mon temps libre à des choses pour compenser un peu plus artistique.
Ah oui, on parle de trompette ou...
Ouais, ben je jouais de la trompette, je jouais de la musique, j'écrivais dans le Polyscope des fois aussi, le journal, puis j'ai toujours eu, je pense, ce besoin de faire 2 choses un peu opposées en même temps pour rester sain.
Pour balancer le cerveau. Mm-hmm. Parlant d'éléments distinctifs, t'es accessoirement le frère de Louis T, l'humoriste. Quel genre de sujet de discussion vous avez à Noël? Mais ben quand il te rend compte, là, il doit te trouver quand même spécial ton cheminement. Comment il voit ça?
Ouais, c'est drôle. C'est une bonne question. Comment est-ce que. Parce qu'on est tout un peu. On est 4 frères. On est 4 gars dans notre famille. Puis on est tout le monde très. On a toutes les discussions très comme rationnelles, mentales, hypothétiques. Mm-hmm. On parle beaucoup de politique. Honnêtement, je suis le seul qui est un peu comme le. Ingénieur qui est allé du côté ingénieur science, Et on parle beaucoup, beaucoup de politique, dans le fond. C'est vraiment ça dont on parle. Il y a comme une, il y a un running gag que le premier de Noël, quand je suis revenu au Québec après la première session de doctorat, j'ai voulu expliquer c'est quoi la fusion nucléaire à ma famille. Puis, ça
Comment
m'a
ça s'est
pris comme
passé?
très mal. Pendant 1 heure et demie de temps, à minuit, on expliquait ça. Puis jusqu'à temps que genre, ma mère disait, OK, là, on est rendu trop loin. Donc, il
Ouais,
a fallu
c'est
que je peaufine mes talents de vulgarisateur avec ma famille. Ça a aidé beaucoup.
Ben, écoute, tu l'as démontré aujourd'hui. Un énorme merci pour ton temps et ta participation. C'était intéressant d'entendre ton histoire. Je te remercie.
Merci à toi. Ça me fait toujours plaisir ça me fait toujours plaisir de parler de ça.
C'est un sujet super intéressant. Mais merci, Elliot. On se reparle quand on aura atteint l'étape où on aura eu un gain d'énergie supérieur à celui qui aura été injecté dans l'appareil
Ah.
pour démarrer tout ça.
Ouais, c'est certain et ça va arriver plus tôt qu'on
Ah,
pense.
je nous le souhaite, je nous le souhaite. Merci.
Merci.
Voilà, c'était Histoire de génie. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre balado sur les différentes plateformes. Et pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, venez voir ce qui se fait de plus impressionnant comme recherche à Polytechnique Montréal en visitant mon blog Le Labo 2500 à l'adresse polymtl.ca/blog. Merci de nous écouter et à une prochaine histoire.